Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, 19h donc, c'est Soft Power, le magazine des internets, en direct jusqu'à 20h depuis la maison de la radio. Bonsoir à tous. Donc au sommaire de Soft Power ce soir, le magazine des internets de France Culture, la ville intelligente ou Smart City. Il y a de nouvelles villes entièrement smart, comme en Russie ou en Afrique. Il y a des villes qui deviennent smarter, plus smart ou plus intelligentes, c'est-à-dire globalement et souvent, mais pas seulement digital et numérique. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? On en parle ce soir avec Dominique Boulier dans notre séquence l'alphabet numérique. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Ensuite, dans un débat qui suivra sur ce même sujet, trois invités. Albert Asseraf, directeur stratégique de JC Deco. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
À vos côtés, Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis un troisième participant à ce débat, Vianney Delourme, cofondateur de Enlargios Paris.
Bonsoir.
Ça veut dire quoi,
hein? Enlargios Paris,
ouais.
Écoutez, vous vous souvenez des spams peut-être que vous receviez?
Mais plus fondamentalement.
Fondamentalement, c'est un appel à sortir des frontières du petit Paris pour embrasser le grand Paris de la culture.
Et voilà. Notamment vous voir ce qui se passe en banlieue et aussi pour que les Parisiens y aillent, mais aussi pour les habitants hors les murs de Paris.
Que les banlieusards et les franciliens profitent de toutes les richesses qu'ils ont à leur portée.
Voilà, ça sera un point de vue complémentaire à ce débat sur les villes digitales, pas seulement, mais aussi smart, mais aussi les smart cities. Dans un instant, l'actualité du numérique et des médias avec Agnès Chevaux. Avec vous Agnès, on s'interroge sur ce qu'on lira justement dans les villes intelligentes.
Surprise, surprise.
Au sommaire encore de Soft Power, nous évoquerons le nouveau jeu vidéo Call of Duty Advanced Warfare avec l'acteur Kevin Spacey, ou quand l'industrie du videogame fait appel à Hollywood. Et puis en fin d'émission, une petite exclusivité, le tout nouvel album d'un très jeune groupe, de jeunes débutants, Pink Floyd. Leur album The Endless River sort demain. C'est Soft Power, le magazine des internets de France Culture. À suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur Instagram, Vine, Facebook et sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission, comme chaque semaine, l'actualité dans le secteur des médias, des industries créatives et du numérique. Agnès Chevaux, vous avez choisi ce soir de parler justement, de vous intéresser, de vous interroger sur ce qu'on lira dans la presse. Comment on lira la presse dans les smart cities?
Oui Frédéric, parce qu'on peut légitimement se poser la question, le papier va-t-il disparaître de la ville intelligente? Va-t-on dans son abribus connecté télécharger son PDF sur sa tablette ou surfer sur son smartphone? De toutes ces réponses se joue en partie quand même l'avenir de la presse. Alors, on le sait, les pratiques évoluent très vite. Les derniers chiffres de l'OJD le disent. La diffusion papier est très nettement en recul, tandis que les ventes de journaux quotidiens au format numérique prennent leur envol et représentent désormais entre 8% et 18% des ventes, par exemple pour les Échos et Le Monde. Alors, l'avenir de la presse passe-t-il par la tablette? Y a-t-il un ou des modèles économiques? C'est la question en tout cas que pose un livre récent, celui de Cyril Petit et Vincent Masse, qui s'appelle « La presse sur tablette ». Alors pourtant, tout le monde n'y croit pas. Et certains partent d'emblée sur le smartphone. La preuve, l'hebdomadaire britannique The Economist lance cette semaine sa première édition quotidienne, The Economist Expresso, une application conçue pour le smartphone, qui offre un condensé d'articles courts en 120 mots, l'actualité de la nuit et un résumé des cours des principaux indices et devises, le tout donc pour être consulté au petit déjeuner ou dans les transports pour 3,59€ par mois. Alors papier, tablette, smartphone, on voit bien que l'incertitude continue de régner parmi les éditeurs de presse. Il y a un an, tout juste un an, Ouest France lançait le premier quotidien numérique du soir sur tablette, gratuit, avec des contenus propres, originaux, donc fournis par leur réseau de correspondants. Alors le problème, c'est que les visites ont plafonné à 1500 consultations quotidiennes, le lectorat du plus gros quotidien français n'étant pas assez équipé probablement en tablette. Du coup, Ouest-France a abandonné l'idée d'un quotidien 100% tablette et l'a porté sur le web et les smartphones, lui permettant ainsi de multiplier le lectorat moyen par 10. On a le même type d'expérience en demi-teinte à rue 89. Le pure player a renoncé à son édition du week-end sur tablette à 2,69€ par mois, faute de lecteurs. La réponse est en partie donnée par David Lévy, qui est le directeur du Rutter Institute à Oxford. Et cet institut de recherche s'intéresse aux nouveaux comportements de consommation de l'actualité. Alors selon lui, nous utilisons chaque objet pour ce qu'il peut apporter. Le smartphone pour l'information rapide, la tablette pour la lecture d'articles, les journaux pour la lecture approfondie. L'inconnu, dit-il, c'est l'équilibre à terme entre ces différents objets. Mais ajoute-t-il, le pouvoir d'attraction des tablettes réside dans le fait qu'elles combinent des mises en forme héritées du papier et la puissance et la profondeur des ordinateurs.
C'est la leçon retenue aussi par le journal canadien francophone La Presse.
Alors La Presse Plus, justement, pour faire face à l'érosion de ses ventes, a décidé de tout miser sur la tablette et d'abandonner à court terme le papier. L'application lancée depuis 18 mois est un vrai produit multimédia innovant qui permet une navigation efficace entre le texte, les photos, la vidéo. Et d'ores et déjà, couronné de succès, écoutez son directeur Guy Crevier.
On est le premier quotidien au monde à avoir franchi le cap des 50% de revenus sur des plateformes numériques. Ce qui est la difficulté aujourd'hui, je dirais, c'est le coût de transformation. Parce que les journaux, par nature, ce sont des entreprises qui sont lourdes. Des usines d'impression, des réseaux de distribution, tout ça. Donc, on doit modifier ça. Ça implique des coûts, des frais, des primes de départ. C'est cet aspect-là qui est le plus lourd aujourd'hui. Je veux dire, on a géré la décroissance pendant plusieurs années. On a 44 minutes de consommation moyenne en semaine par les usagers. Donc, il y a un engagement qui est profond. Puis, c'est un produit qu'on offre qui est un produit de qualité. Il y a beaucoup plus de profondeur. Il y a des cartes interactives. C'est hyper intéressant comme contenu.
Guy Crevier, donc, pour La Presse Plus. Vous aurez reconnu qu'il est québécois.
Tout à fait. Alors, succès ou pas, la tablette continue en tout cas d'attirer. En France, Le Monde et L'Obs devraient dans quelques semaines lancer leur nouvelle application sur tablette. Tandis que trois anciens dirigeants de la presse papier, hein, pure et dure, Denis Jambard, Éric Fotorino et David Guiraud, lancent pour début 2015 un nouveau quotidien sur tablette, baptisé provisoirement 2h57. Donc tablette ou smartphone, les mutations sont donc en cours. À n'en point douter, on ira bien sur des écrans dans les smart cities.
Voilà, 2h57, c'est sans doute à l'heure à laquelle il faudra se lever pour le lire. This is why I'm hot, hot.
This is why I'm hot, hot. Soft Power, le magazine des internets de France Culture. Frédéric Martel avec Agnès Chauveau.
France Culture en direct, 19h09, avec nous Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Bonsoir. Trois actualités pour compléter cette début d'émission. On va parler de Call of Duty dans un instant, d'Alibaba, mais juste avant, Deezer qui s'installe, Emmanuel, aux États-Unis.
Oui, alors c'est le site de musique concurrent de Spotify, du suédois Spotify, qui aujourd'hui se décide enfin à venir sur le marché américain, 3 ans après le suédois. Alors il faut dire que c'est un marché qui coûte extrêmement cher. Pour acquérir les droits d'accès au catalogue des grandes majors américaines, il faut débourser des minimums garantis, donc plusieurs millions de dollars pour accéder à ces catalogues. Alors il se trouve que Deezer a levé 100 millions de dollars il y a quelques temps auprès d'Access Industries, dont l'un des grands actionnaires est un milliardaire russe, Lev Blavatnik. Et donc aujourd'hui, Deezer a les ambitions et les moyens de s'intéresser au marché américain, tardivement certes, et en ouvrant un premier bureau à New York début 2015.
Alors Deezer d'une part, au fond, ils arrivent aux États-Unis, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des Chinois qui étaient déjà dans certaines sociétés, mais qui le font le cas échéant avec des studios américains.
Oui, alors c'est une rumeur qui rebondit depuis plusieurs semaines déjà dans la presse américaine.
Alibaba, généralement, on
n'en parle que tardivement.
On ne fait pas rebondir les rumeurs, mais il se trouve qu'elle n'a pas été démentie. Et exactement. Dans le langage américain, on sait que c'est une sorte de feu vert à cette information.
Ils ont de confirmation, oui. Voilà. Donc le géant électronique, donc Alibaba, le grand concurrent d'Amazon, hein, qui est coté en bourse depuis peu, s'intéresserait à Lionsgate. Alors, Lionsgate, c'est un des derniers studios indépendants américains du cinéma. Il a produit notamment la trilogie Twilight, que tout le monde connaît, même vous, je pense, Frédéric. Et plus récemment, la trilogie Hunger Games, qui sort, dont le dernier opus sort bientôt au cinéma. C'est aussi un producteur de télévisé avec Mad Men, la série Mad Men, qui aujourd'hui est connue dans le monde entier. Donc, c'est un studio qui a plutôt le vent en poupe actuellement et qui a déjà passé un accord avec Alibaba sur le marché chinois pour distribuer sur Internet les contenus de l'américain sur tout le territoire chinois.
Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau que des studios américains appartiennent ou dans lesquels des capitaux étrangers arrivent. On se souvient bien sûr d'Universal qui a été quelques années français.
Ou Sony qui appartient toujours aux Japonais.
Sony qui est toujours avec Columbia, Sony Columbia qui appartient aux Japonais. Ou encore des exemples comme Reliance, le géant indien qui a racheté une partie de DreamWorks à SKG. Donc on voit que les grands asiatiques sont parfois dans l'industrie du cinéma américain. Mais est-ce que, jusqu'à quel point ça peut être décisif selon vous?
De toute façon, on voit que même les studios classiques, on en avait déjà parlé ici, hein, comme Disney par exemple avec le dernier Avenger, ont tourné des scènes particulièrement pour le marché chinois, pour adresser le marché chinois avec des acteurs chinois. Donc c'est le cas de Disney avec Iron Man 3. Ça sera le cas du prochain Avenger qui va sortir, dans lequel il y aurait plusieurs scènes qui ont été tournées sur le marché asiatique. Donc on voit que les grands studios américains aujourd'hui tentent de se diriger vers ce marché en très forte croissance. Et dans le même temps, ce marché en très forte croissance essaye de sortir de ses frontières et d'attaquer le marché américain, notamment via des acquisitions.
Et puis Hollywood qui sort aussi de son périmètre, de son précaré du cinéma pour aller, écoutez bien, dans le jeu vidéo.
Democracy, democracy. Democracy is not what these people need. Hell, it's not even what they want. America's been trying to install democracies in nations for a century, and it hasn't worked one time. These countries don't have the most basic building blocks to support a democracy.
On entend le mot « démocratie » répété, vous aurez reconnu peut-être la voix de Kevin Spacey. Emmanuel Paquette, c'est le nouveau Call of Duty Advanced Warfare, lancé en début de semaine et qui utilise un acteur d'Hollywood.
Oui, là encore, c'est probablement une façon pour Activision Blizzard, qui est aujourd'hui le développeur, l'éditeur de ce jeu, donc l'américain, de relancer un petit peu les ventes de son jeu star. Alors, c'est un jeu qui sort tous les ans à la même époque, qui traite à chaque fois de guerre contre des puissances étrangères, de guerre contre les terroristes. Cette fois, pour relancer un peu une franchise, comme on dit donc aux États-Unis, qui est en train de s'essouffler, ils ont fait appel effectivement à un grand nom d'Hollywood pour essayer de rebooster un petit peu cette marque qui, normalement, se vend entre 20 et 30 millions d'unités. Je vous laisse faire le calcul, à 60 euros ou 70 euros le jeu, je vous laisse faire le calcul de ce que ça peut rapporter.
C'est presque aussi gros qu'Hollywood, finalement.
Plus.
Protection. From invaders and from themselves.
Vous êtes dans Soft Power jusqu'à 20h en direct sur France Culture, il est 19h13.
Soft Power, l'alphabet numérique.
Comme chaque semaine, désormais, notre séquence L'alphabet numérique qui explique, décrypte le web autour de ses expressions, ses mots, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons la ville intelligente avec vous, Dominique Boulier. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, coordinateur du Media Lab de Sciences Po, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Cosmopolitique. Et vous avez écrit, il y a d'ailleurs de nombreuses années, un livre sur la Smart City avant même qu'elle devienne complètement smart. Peut-être pour clarifier ce débat, comment on pourrait définir ce concept et ses différents sens, parfois contradictoires, entre ville intelligente, Smart City, on parle aussi de ville numérique, de ville digitale. Puis après, il y a les villes totalement créées, les nouvelles villes qui sont réellement créées autour du digital.
Alors, il faudrait donner une place aux Smart Cities dans un mouvement général de convergence des enjeux de l'urbanisation, de la gestion des villes et du numérique. Et de ce point de vue, il faut admettre qu'il y a une première étape qui a été celle qui consistait finalement à transformer les systèmes d'information au terme aux villes. C'est quelque chose qui est le plus caché quasiment. Hein. C'est une ville, c'est aussi une organisation, c'est aussi de la gestion interne, c'est des services au public, des choses comme cela. On en a parlé à une époque. Maintenant, où c'est quasiment comme si on n'en parlait plus dans les smart cities. En réalité, c'est un moment important. Je le signale d'ailleurs pourquoi ? Parce que tous les systèmes d'information obligent les acteurs à coopérer entre eux, et on y reviendra sans doute. Le problème des smart cities, dès maintenant encore, ce n'est pas tant un problème de technologie qu'un problème de coordination des acteurs. Ce sont toujours des problèmes organisationnels d'articulation,
comme on dit.
Avec des
acteurs publics et des acteurs privés.
Voilà, mais même au sein des services entre eux, des différents niveaux territoriaux entre les différentes zones du secteur qui est desservi par ces types de réseaux. Donc tout cet aspect-là a été traité, continue d'avancer avec des systèmes qu'on trouve dans les entreprises, des systèmes de gestion, des logiciels de gestion intégrés qui vous donnent des tableaux de bord, etc. Puis à l'extrême opposé, ce qui est le plus visible, c'est ce que l'on trouve dans les réseaux sociaux, dans la réputation, dans l'image véhiculée par les villes. Et alors là, on en parle énormément. On voit bien qu'on a désormais un enjeu de position des villes en termes de marketing sur l'ensemble de la planète, où elles doivent afficher des initiatives et une visibilité à travers leur réputation sur les réseaux sociaux. En réalité, les smart cities, c'est un peu entre les deux, si vous voulez, du point de vue plus technique. Entre les deux, c'est tout ce qui est lié aux services techniques et à la gestion de services optimisés grâce à l'utilisation de technologies qui vont s'appuyer sur une gestion de données les plus fines possibles. Donc c'est ce cœur-là, si vous voulez, sur lequel on focalise en général l'attention en ce moment. Mais il ne faudrait pas oublier les deux autres, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires d'image d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a beaucoup d'affaires de gestion ordinaire au quotidien, de services très basiques, j'allais dire, qui eux aussi ont été affectés par le numérique.
Au fond, il y a trois modèles, par ailleurs, en termes de villes elles-mêmes. Il y a d'abord des villes qui existent, comme Paris, par exemple, qui peut éventuellement devenir plus intelligente. Ensuite, il y a des quartiers. On crée un nouveau quartier qui va être, lui, parce qu'il est nouveau et qu'on peut le penser autrement, être intelligent dès le départ. Et puis enfin, il y a, comme à Skolkovo en Russie, comme à Kolza City au Kenya, comme dans d'autres endroits à travers le monde, des villes qui sont créées entièrement, tout à fait, à partir de cette idée de créer une smart city.
Alors, il est clair qu'un des problèmes clés, justement, des villes, ce qu'on appelle smart cities, c'est de pouvoir retraiter l'ensemble des paramètres d'une ville du point de vue le plus matériel qui soit, c'est-à-dire ses matériaux, ses
tuyaux, des réseaux. Alors même qu'elles existent déjà et qu'elles
Exactement.
Sont anciennes.
Et donc, c'est quand même plus compliqué. Il faut un temps d'intervention, d'adaptation qui est plus sophistiqué que quand vous partez
de zéro,
d'une table rase, j'allais dire, et vous pouvez imaginer un ensemble qui est vraiment l'idéal de tous les utopistes, si vous voulez, de créer cette ville qu'on pourrait contrôler de A à Z, depuis le plus petit flux d'eau d'un côté jusqu'à l'image que vous donnez, en partant par la traçabilité de tous les opérateurs, de tous les acteurs de la ville. Le mot-clé dans cette affaire-là, c'est la traçabilité. La traçabilité, parce que c'est basé sur les données et qu'à partir de là, on est capable de les calculer en masse et de générer des corrélations qui vous donnent une vision de la ville qu'on n'avait pas effectivement auparavant, mais qui n'est pas forcément très sophistiquée. C'est-à-dire que ce sont des ajustements et qui nous permettent d'intervenir dans différents secteurs.
Alors ça renvoie à deux débats importants, le débat sur le big data et ensuite le débat sur l'open data. Le débat sur le big data, ça pose évidemment le problème non seulement de comment est-ce qu'on a des outils, des softwares qui sont capables de faire ces calculs-là, et avec la problématique de la vie privée, toutes les questions qui vont en dépendre.
Alors, je voudrais y venir effectivement ensuite. Je voudrais d'abord signaler quand même qu'il ne faut pas oublier que ça connecte beaucoup de capteurs, d'effecteurs aussi, et des objets. C'est-à-dire que ces systèmes-là marchent bien parce que tout cela est connecté petit à petit et interopérable, ce qui pose de grands problèmes techniques. Ce n'est pas aussi simple que ce que je disais précédemment, mais il n'empêche que c'est à partir de là que ça fonctionne. Évidemment, quelquefois, ces objets-là, vous les portez avec vous en permanence.
Wearable, on dit.
Exactement. Vous avez cette portabilité-là, elle est clé, c'est-à-dire c'est connecté à votre corps. Quelquefois, ça peut faire référence à des données personnelles qui marquent votre individu au sens de l'état civil, mais pas toujours. C'est seulement quelquefois votre activité, des flux que vous avez en voiture, des flux parce que vous passez auprès de magasins. On ne sait pas forcément qui vous êtes, mais ça suffit par exemple pour, du point de vue commercial, envoyer des publicités ou bien pour la gestion d'un trafic de piétons, comprendre quels sont les flux qui sont importants.
Agnès Chauveau.
On voit bien, à vous entendre, Dominique Boulier, que la transformation, la mutation de ces villes en villes intelligentes passe beaucoup par le développement, finalement, des technologies de l'information et de la communication. Est-ce que ce n'est pas une vision trop technocentrique de la ville ?
il y a un vrai risque à penser que, à travers l'équipement massif en traitement de données et en modèles, j'allais dire, qui sont tirés de ces données-là, on pourrait résoudre les problèmes. Si vous voulez. C'est un peu ce que Evgeny Morozov appelle effectivement le solutionnisme, c'est-à-dire on a un problème, eh bien on va trouver les capteurs, on va vous faire les modèles qui sont générés d'ailleurs comme ci, comme ça, mais enfin disons qu'on essaye de trouver, et finalement on va vous trouver une solution. Or, il y a sur chaque problème plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions et il y a plusieurs solutions qui ont des visions politiques.
Et puis il y a aussi des problèmes. Ça crée de nouveaux problèmes. Et
éventuellement, ça crée d'autres problèmes. C'est-à-dire que précisément, c'est un peu ça le risque dans cette vision, fascinante, un petit peu du contrôle qu'on pourrait avoir et qu'on comprend bien du point de vue de l'optimisation de ces services-là. Il n'empêche qu'il y a effectivement un risque de faire disparaître le débat politique sur mais qu'est-ce qu'on veut pour vivre ensemble? Quel monde on construit ensemble? Et ça, c'est un risque effectivement qui est présent, qui laisserait le pouvoir à ces grandes organisations
Big Brother,
puissantes du point de vue technique. Oui.
Emmanuel Paquette.
Justement, il y a quand même deux grandes questions au moins sous-jacentes. La première, c'est la gestion de l'énergie, puisque l'énergie, le coût de l'énergie devient de plus en plus important pour les foyers, pour les villes. Donc normalement, c'est censé être une réponse. Et la deuxième, c'est sur la pollution et les transports, c'est-à-dire faire diminuer le taux de pollution des villes, notamment en optimisant le transport, la circulation, et en mettant probablement à disposition des voitures électriques, comme ça existe notamment à Paris, mais dans d'autres villes également. Donc est-ce que ce n'est pas déjà ce qui se dessine un petit peu sous-jacent de ce dont vous venez de parler précédemment, c'est-à-dire au moins une lutte contre le réchauffement climatique et une lutte contre le transport à outrance dans les grandes villes? Premier point. Et le deuxième point, essayer de faire baisser la facture énergétique des foyers.
Alors, on peut considérer que ceux qui développent ces systèmes-là, que ce soit les grids, par exemple, pour l'énergie, comme tous les autres systèmes de contrôle de la pollution, visent précisément ces objectifs de soutenabilité, j'allais dire, des villes. En réalité, il faut bien voir qu'ils affrontent deux problèmes importants dans toutes ces questions-là. C'est d'une part le fait que cela suppose une coordination entre les acteurs, ce que j'évoquais précédemment. Et ça, c'est très compliqué. Si vous avez beau avoir la volonté politique à un endroit et mettre les capteurs qu'il faut, c'est pas cela qui va vous faire vous entendre avec les transporteurs, avec les différents acteurs concernés. Et deuxième enjeu, ce sont des dossiers sur lesquels les comportements individuels sont essentiels, les valeurs, les habitudes, etc. Bien entendu, les technologies vont pouvoir venir au service de cela parce qu'on va vous mesurer, vous savez, ce mouvement du quantified self aussi, vous allez pouvoir mesurer votre propre émission, le poids d'ordure que vous générez, etc. Et donc, on peut espérer un feedback, un retour sur le comportement des gens qui pourrait faire transformer des habitudes. Mais ce n'est pas gagné. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondément enracinées. Donc, il faut accompagner ça d'un ensemble, d'un mouvement politique, culturel, qui puisse faire en sorte que les technologies fonctionnent réellement.
La ville intelligente, la Smart City. Je vous propose, pour illustrer ce dont on parle, d'écouter un court entretien réalisé d'ailleurs ce vendredi à Mexico avec l'ancien maire de Mexico, par ailleurs candidat à la présidentielle au Mexique, Marcelo Ebrard. Mexico, c'est une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, confrontée à d'immenses problèmes de circulation et de pollution. Je lui ai demandé comment il pensait que la ville devait évoluer et devenir, comment elle pouvait devenir intelligente.
The most important thing in this city is knowledge and access to new technology, because the future.
La chose la plus importante dans une ville, c'est la connaissance. La connaissance et l'accès aux nouvelles technologies. Nous avons donc élargi l'accès aux nouvelles technologies en commençant par les écoles, toutes les écoles, primaires, secondaires, tous les lycées. On a également promu le Wi-Fi partout à travers des points d'accès gratuits, par exemple dans le métro, afin que ceux qui n'ont pas de connexion puissent y accéder. On appelle ça des cybercentros. Tout le monde peut les utiliser 30 minutes par jour, gratuitement.
So the idea is to have as soon as possible in the city.
L'idée est de faire en sorte que 75% de la population de Mexico ait accès à Internet quand la moyenne nationale au Mexique est d'environ 45%. En Corée du Sud, en comparaison, c'est 87%. Donc, ça va être crucial dans la décennie à venir et ça devrait être la priorité du gouvernement et de la gauche.
Marcelo Ebrard, ancien maire de Mexico. On sent qu'il y a aussi une question sous-jacente, même si lui, il a été assez acteur, actif pour multiplier les activités numériques dans cette ville, cette mégalopole, je le disais, de Mexico. C'est un risque que les pouvoirs publics soient dessaisis aussi par ces innovations. Dominique Boulier.
Et en réalité, il y a trois possibilités. Hein. Actuellement, on les voit bien dans les politiques possibles de se lier au big data et à l'ensemble des smart cities. Soit vous avez une vision de la ville que vous gérez à partir de modèles et que vous pilotez à partir de systèmes ultra intelligents et de capteurs que vous installez et qui est un peu la logique d'IBM, par exemple, avec ses capacités d'intelligence artificielle élevées. Soit vous êtes lié sur une logique de data qui circule, qui sont empruntées, réutilisées. C'est plutôt la logique de Google, j'allais dire. C'est-à-dire on fait effectivement à partir des cartes, point essentiel pour l'ensemble de l'activité des villes intelligentes. Eh bien, puis par hasard, si Google s'est positionné là-dessus. Troisième possibilité, troisième politique, c'est effectivement, comme on le voit à propos de l'exemple mexicain, on peut s'appuyer sur les contributions des citoyens. Je dis bien les contributions, c'est-à-dire que éduquer au numérique, c'est un premier pas, un prérequis.
Qui partagent leurs données vraiment.
Mais à condition qu'ils soient actifs et mis dans la boucle. À ce moment-là, c'est une autre politique, si vous voulez. Et là, on a le choix. C'est-à-dire quand on fait des choix d'architecture technique, eh bien, on peut choisir quelque chose qui est beaucoup plus centralisé, puissant, qui équipe les services, etc. On peut choisir aussi quelque chose qui gère les données et qui les connecte à volonté en fonction des situations sur certains services particuliers. Et parce que c'est les deux à la fois, on peut mettre les citoyens aussi dans la boucle d'une façon ou d'une autre, y compris pour des questions de démocratie.
Et puis il y a des cas, par exemple l'application Waze, qui est une application d'origine israélienne, rachetée, je crois, pour plus d'un milliard de dollars par Google en 2009, et qui est nourrie par les internautes qui lui indiquent, qui apportent des informations sur là où il y a des trafics, où parfois il y a des radars, un accident, etc., sur les routes. Et où là, c'est quelque chose qui aurait pu être fait par les villes, qui pourrait être fait par le grand business, mais qui est en fait fait par une application nourrie par les utilisateurs.
Alors je crois qu'il y a un potentiel extraordinaire à développer des techniques distribuées, hein, qu'on appelle distribuées au sens technique et social, c'est-à-dire où vous avez une décontribution à la périphérie, comme on dit, au plus petit intervenant, parce que c'est dans l'expérience de ces habitants qu'il y a les meilleurs capteurs pour comprendre ce qui se passe réellement, à condition que les services soient équipés pour réagir, parce que sinon c'est catastrophique. De ce point de vue-là, ça décevrait tout le monde et ça ne ferait pas avancer beaucoup les villes intelligentes, précisément.
L'alphabet numérique sur la ville intelligente, la Smart City, Dominique Boulier, professeur à Sciences Po, rédacteur en chef de la revue Cosmopolitique. France Culture, 19h27, dans une ou deux minutes, le débat sur la ville numérique, la Smart City, en attendant une rencontre incroyable entre le groupe lyonnais Ginger Accident et le crooner indien édenté de Bombay Slow Joe.
You don't have to tell me. You don't have to tell me what I have to do. You don't have to tell me. You don't have to tell me who I have to be. I'm free to live. I'm free to live and love. I'm free to give. I'm free to say goodbye. Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me.
You better get something straight. I've been living all these years by myself. Sometimes it hurts so badly. We got handkerchiefs.
Ce groupe donc lyonnais qui était en vacances à Bombay a rencontré Slow Joe, un sans-dent, hein, comme aurait dit François Hollande. En tout cas, un nouvel album, Lost for Love, et une tournée partout en France en ce moment. Slow Joe and Ginger Accident, on adore sur Culture. Débat ce soir dans Soft Power jusqu'à 20h autour de la ville intelligente, la Smart City, avec nous Albert Asseraf, directeur stratégique de JC Deco. Bon, rebonsoir monsieur.
Bonsoir.
Éric Mazoyer à vos côtés, directeur général délégué de Bouygues Immobilier.
Rebonsoir.
Rebonsoir. Et Vianney Delourme, cofondateur de Enlarge Your Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, trois invités, plusieurs questions. On va peut-être commencer par voir ce que vous faites tous les trois sur ce sujet. On peut commencer peut-être par vous, Albert Asseraf, autour de JC Decaux. On connaît votre, comment dire, ultra-domination dans le marché du mobilier urbain, notamment. C'est vous aussi qui faites, au-delà des abribus, le Vélib, un certain nombre d'autres activités. Comment est-ce que vous avez évolué vers, je dirais, travail traditionnel d'affichage ou d'abribus très simple vers des modèles nouveaux, multi-activités, numériques, etc., qui font que JC Decaux est passé, au fond, à l'âge de la ville intelligente. Et comment vous la concevez, cette ville intelligente ?
Alors, en effet, depuis 50 ans exactement, puisque JC Decaux est né en 1964, nous apportons des services
sur smartphone.
C'est-à-dire ?
Depuis 50 ans.
Oui, oui. Alors, M. Boulier rappelait, par exemple, que la ville a pour objectif, a pour vocation d'organiser les services aux citoyens. Et JC Decaux est le partenaire de 3700 villes dans le monde, avec cet objectif, hein, depuis un demi-siècle, apporter des services qui facilitent la ville aux citoyens. Vous avez mentionné les abribus, les Vélib. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la révolution numérique ou technologique nous permet d'apporter un certain nombre de services nouveaux. Et par exemple, nous installons en ce moment même les nouveaux abribus de Paris, puisque nous avons reconduit ce contrat pour 15 ans. Et un certain nombre d'innovations techniques et technologiques vont les améliorer.
Qu'est-ce qui se passera dans un abribus, par exemple ?
Alors, il se passera un certain nombre de choses.
On n'atteindra pas simplement son bus, ou en tout cas, on fera d'autres choses tout en attendant son bus ?
Oui, par exemple, à partir de janvier 2015, puisque nous avons commencé à installer les premiers, mais ils seront totalement opérationnels à partir de janvier, une centaine d'entre eux seront équipés d'écrans digitaux tactiles de contenu qui permettront d'obtenir des informations sur les transports, sur les loisirs, sur la culture, sur l'histoire de la ville. Tout cela en temps réel. Et d'ailleurs, la ville de Paris vient de lancer il y a quelques jours, en partenariat avec JC Decaux, un concours d'applications auprès de la communauté des développeurs pour justement imaginer ces applications qui vont venir alimenter ces écrans. Je peux prendre un autre exemple. À Sao Paulo, cette fois, nous avons installé depuis peu un certain nombre d'écrans digitaux urbains qui permettent de faire défiler le fil Twitter de la ville de Sao Paulo. C'est-à-dire que le réseau social passe à une dimension collective et non plus uniquement individuelle. Donc, un certain nombre d'innovations de ce type.
Mais c'est pour quand ? Quand est-ce que ça va arriver ? Parce que pour l'instant, on a du mal, par exemple, sur la ligne 70 qui mène à la Maison de la Radio, on ne sait toujours pas quand va arriver le bus, puisque l'annonce est faite. Mais généralement, ça se trompe de 20 minutes assez allègrement, ou ça s'éteint, ou ça ne marche pas. Donc c'est bien de penser la ville du futur, mais juste le truc de base, savoir quand est-ce que votre bus va arriver, ne marche pas à Paris pratiquement nulle part.
Alors je vous trouve très sévère sur la borne d'information voyageurs qui est du ressort de la RATP.
Vous voulez dire que la RATP ne vous alimente pas comme il faut ?
Je voulais juste rappeler que c'est un service mais que je trouve moi qui est très, très fonctionnel, donc on ne doit pas prendre la même ligne de bus.
Oui, avant de taper ses emails et autre chose, on peut commencer par ça peut-être.
Oui, mais en l'occurrence, sur l'ensemble des abribus parisiens de la nouvelle génération, vous aurez de nouveau cette borne d'information voyageurs qui vous permettra d'obtenir et surtout de voir d'encore plus loin le temps d'attente du ou des prochains bus.
Donc, c'est depuis nos bureaux ici, on pourra le voir et on pourra éventuellement...
Il faut quand même que ce soit dans une limite de quelques dizaines de mètres et non plus seulement sous l'abribus lui-même.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Oui, on vient d'avoir les derniers chiffres du gendarme des télécoms sur l'équipement mobile en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a 79 millions de cartes SIM. C'est 120% de taux de pénétration, c'est-à-dire plus d'une personne a un téléphone, a plus d'un téléphone quasiment sur soi, ou en tout cas téléphone ou appareil connecté. Est-ce que c'est pas redondant avec un abribus connecté, puisque aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone dans sa poche connecté sur lequel il a les applications nécessaires. Donc, est-ce qu'on n'offre pas deux fois la même chose à un même usager ?
Et en le faisant payer aux Parisiens, du coup ?
Alors, en l'occurrence, c'est gratuit, puisque tout est financé par la publicité, je le rappelle. C'est le modèle de JC Decaux.
C'est le modèle JC Decaux, oui.
Donc, il n'y a aucun coût pour les citoyens, y compris le Vélib. Alors, pour répondre à votre question, qui est l'excellente question...
Qui est payant,
mais
que vous remboursez les équipements par cet abonnement.
Alors, donc, pour répondre à votre question sur les écrans qui feraient éventuellement double emploi, nous avons testé pendant près d'un an à Paris ces écrans dans le cadre de l'appel à projet lancé par la ville de Paris qui s'appelait Mobile Urbain Intelligent. Et on a observé que les gens étaient extrêmement attentifs à ce type d'écran parce qu'ils apportaient une information organisée. C'est-à-dire que ce n'est plus des applications qui sont choisies par les Parisiens, mais bien par la ville, par ses partenaires, et elles sont au nombre d'une quinzaine, et elles sont immédiatement opérationnelles. Prenons le cas de quelqu'un qui ne connaît pas un quartier, d'un touriste qui veut se renseigner, il a accès à une information sans avoir à la chercher sur un téléphone mobile qui lui appartiendrait. Et donc, on s'est posé exactement cette question, est-ce qu'il n'y a pas finalement une information déjà disponible et de bien meilleur niveau sur les téléphones individuels? La réponse est apparue comme négative et les gens nous ont dit, nous on veut absolument que ces écrans se développent parce qu'ils nous permettent d'accéder immédiatement à la bonne information, au bon endroit, au bon moment, sans avoir à la chercher.
Vous êtes anti-Google, vous vivez de la publicité mais vous évitez la recherche aux utilisateurs.
Non, on leur simplifie la vie, comme toujours. Hein. C'est l'objectif de JC Decaux, simplifier la vie en ville de toutes les manières possibles, avec un financement par la publicité. C'est le même modèle.
Agnès Chevaux.
Alors, un financement par la publicité, justement, on sait tous que le marché mondial de la ville intelligente va exploser. Néanmoins, et là, c'est à l'opérateur privé que je m'adresse, est-ce qu'il y a vraiment un modèle économique, est-ce qu'il y a des business models pour le développement de ces villes intelligentes?
Alors c'est un sujet de fond, évidemment, le business model. Nous avons déployé le nôtre aussi sur la Smart City. Je vous donne deux exemples qui montrent que la publicité peut financer des services numériques. Prenons l'exemple d'Amsterdam. Nous avons installé dans 200 abribus des small cells qui permettent d'avoir un confort pour obtenir la 4G maximum. C'est-à-dire que vous avez toujours un réseau de très grande qualité. Et là, nous sommes bien sur notre modèle. Tout ça est financé indépendamment de tout financement individuel ou de la collectivité. Deuxième exemple en Allemagne, nous fournissons le Wi-Fi gratuit à partir de mobiliers urbains, eux-mêmes financés par la publicité. C'est donc le modèle global qui permet un certain nombre d'innovations techniques et technologiques pour de nouveaux usages.
Il y a vraiment un business model pour la ville intelligente, dans son ensemble, pour les opérateurs privés.
Sur certains aspects, en tout cas pour les aspects qui nous concernent, nous avons à proposer un modèle économique autour de ce financement par la publicité. Il y aura sans doute à trouver d'autres modèles pour d'autres services, en particulier autour de l'énergie, autour de la donnée. Chaque entreprise, et je reviens là encore sur ce que disait M. Boulier, parfois en partenariat, devra trouver un modèle vertueux pour que tout soit accessible au plus grand nombre.
Emmanuel Paquette.
Alors, juste pour revenir sur les small cells, c'est des petites antennes de télécommunications qui permettent à un réseau télécom...
Merci de la traduction en français.
Qui permettent à un réseau télécom d'avoir plus de débit à des endroits clés. Donc, mais qui sont du coup à un niveau très proche des utilisateurs physiquement. Donc ça crée des problèmes, notamment avec des associations qui luttent contre les antennes relais traditionnelles, et encore plus ces small cells, puisqu'elles sont quasiment à taille humaine ou pas loin de taille humaine, justement ce que vous proposez aujourd'hui. Alors est-ce que ça ne crée pas des tensions avec les usagers et les utilisateurs?
Alors c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte, vous avez parfaitement raison. Alors c'est vrai que nous, les premières études montrent que d'abord les ondes sont extrêmement faibles sur ces petites antennes et donc vraiment tout à fait en dessous des seuils qui sont aujourd'hui autorisés, et surtout elles montent plutôt qu'elles ne descendent. Et donc une antenne orientée au-dessus d'un mobilier urbain fait que les ondes vont plutôt aller vers le haut que vers le bas. Maintenant, il faudra mener toutes les études pour que le sujet soit parfaitement traité. Et évidemment, nous resterons systématiquement dans les normes autorisées.
Soft Power, 19h37, en direct. Éric Mazoyer, vous êtes directeur général délégué de Bouygues Immobilier. On a parlé depuis le début de cette émission de Ville Intelligente, de Smart City. Parfois, on a évoqué les villes numériques. Pour vous, c'est deux choses très différentes. Et par ailleurs, comment est-ce que vous concevez chez Bouygues, y compris avec les quartiers, je pense à celui de ICI, hein, ICI Les Moulineaux, ICI Grid, c'est-à-dire un quartier smart. Comment vous concevez chez Bouygues la ville numérique?
Alors peut-être un petit mouvement historique. Donc nous, on est un promoteur, constructeur, développeur, le principal de France. Notre métier, c'est essentiellement de fabriquer des usages de vie, donc des usages pour habiter, des usages pour consommer, des usages pour travailler.
Du béton, quoi. Du brick and mortar, c'est-à-dire du solide.
Le béton, ça n'est que le récipient qui reçoit l'usage, mais de l'usage. Forcément, vous ne vivez pas de la même façon à votre bureau, enfin j'espère pour vous, que dans votre logement. Et donc, il y a deux mouvements qui sont amorcés. Le premier, c'est, on va dire, les éco-quartiers qu'on a démarrés il y a une dizaine d'années. Et le second, c'est ce grand virage qu'on a fait franchir à tous nos collaborateurs sur, on va dire, les immeubles à énergie positive. Donc, qui était le fait de créer un modèle dans lequel on pouvait imaginer que nos immeubles pouvaient vivre en autarcie énergétique. C'est-à-dire des immeubles qui consomment très, très peu d'énergie et qui, en plus, produisent de l'énergie verte. Et en rapprochant ce modèle des immeubles vertueux des écoquartiers, en y intégrant les nouveaux usages numériques qui inondent le quotidien de nos consommateurs et des usagers des centres commerciaux, des bureaux et des logements. Forcément, vous ne vivez plus avec le numérique comme vous viviez avant. Bah, c'en est, pour nous, notre concept à nous des smart cities. Alors, on a quelques exemples. Le Ford ici ou Ginkgo, hein, c'est 2500 logements à Bordeaux. Le Ford ici, c'est 1500 logements. C'est la génération, on va dire, des éco-quartiers d'hier, dans lequel maintenant, grâce à EasyGrid, qui est le premier réseau énergétique...
À Issy-les-Moulineaux, donc.
À Issy-les-Moulineaux, en rapprochant ce problème énergétique, on est en train, on va livrer à Lyon, avec M. Colomb, sur Lyon Confluence, le premier mini Smart Cities, maire de Lyon. Le premier Smart Cities, en fait, c'est quoi? C'est trois bâtiments complètement mixtes qui vont, en fait, équipés de moyens de communication, pouvoir se parler entre eux, comme l'Internet des objets, échanger des informations sur leurs besoins et leur capacité de consommation. Et ça, c'est plus de la science-fiction, puisque ça va être mis en service.
Donc, c'est une ville numérique ou c'est une ville intelligente?
Alors, c'est une ville déjà qui est numérique, et c'est parce qu'elle est numérique qu'elle devient un peu plus intelligente, puisque l'interopérabilité, à la fois des transports, des déchets, de l'eau, de l'énergie, c'est ça qui rend plus intelligent. Alors, on fait tout ça essentiellement pour apporter plus de confort, rendre la ville plus belle et la ville plus agréable aux usagers. On ne fait pas ça pour le guise.
Pour la rendre plus laide et moins fonctionnelle.
Voilà, absolument. Bravo.
Bah, bravo. Bravo Bouygues alors. Agnès Chevaux.
Alors c'est une très belle description, mais est-ce que finalement cette ville numérique plus intelligente, elle ne risque pas d'être un peu excluante au sens où est-ce que c'est pas un peu irréaliste de faire reposer cette ville intelligente sur une citoyenneté idéale où tout citadin serait connecté, équipé des dernières interfaces numériques? Est-ce que justement la ville intelligente numérique, c'est pas celle qui combine à la fois le low-tech et le high-tech?
Alors déjà, vous avez raison de le dire, mais déjà, nos écoquartiers, on les conçoit avec une très forte mixité sociale, ce qui n'a pas toujours
vraiment
été... Ah oui, ça c'est d'ailleurs...
Issy-les-Moulineaux, donc très forte mixité
bien
sociale.
Bien sûr, il y a du logement social, il y a le siège de la DGGN, il y a du logement en accession. Nous, on pense que la ville de demain, elle est intergénérationnelle et extrêmement mixte. Alors, elle est mixte dans ses usages, évidemment, puisque l'intérêt de l'énergie, c'est que quand vous consommez à votre domicile, vous ne consommez pas à votre bureau. Donc forcément, c'est ce qui permet de faire cet échange énergétique qui est probablement le sous-jacent du fameux modèle économique dont vous parliez tout à l'heure. Elle est aussi intergénérationnelle, puisqu'elle doit rapprocher toutes les générations. Et elle est, je dirais, numérique et intelligente, puisque, d'une certaine façon, elle apporte des nouveaux usages. Je prends deux exemples très, très simples. Le premier, c'est le e-commerce. Le gros problème du e-commerce, quand on regarde l'avènement du e-commerce, le principal problème, c'est le dernier kilomètre de logistique. Donc c'est facile, en quelques secondes, prenez votre ordinateur, vous pouvez commander jusqu'à Macao une veste chez Shanghai Tang à Macao et vous allez être livré dans moins de 72 heures.
Ça pour la mixité sociale, c'est important.
Oui, mais vous pouvez commander ailleurs.
Mais vous voulez dire que les 100 derniers mètres sont les plus compliqués?
Les 100 derniers mètres sont les plus compliqués à livrer. Et donc forcément... Autant c'est facile de commander, autant c'est complexe ensuite d'amener directement chez vous. On a inventé en fait ce qu'on appelle la conciergerie de quartier, c'est-à-dire que c'est des nouveaux usages, c'est-à-dire que dans ces nouveaux écoquartiers, on syndique un certain nombre de services qui permettent effectivement à ces nouveaux habitants d'avoir des services qu'ils ne connaissent pas dans leur ville d'aujourd'hui. Et ces services sont partagés par, des gens du logement social comme des gens de l'accession, oui, ou du bureau d'ailleurs.
Dominique Boulier sur ce sujet.
Oui, ce qui est important, c'est de voir à quel point des opérateurs diversifiés peuvent commencer à intervenir à travers le numérique pour traiter des questions sociales, justement, de distribution de l'information, mais de distribution de services, de biens, etc. Et que ce soit Deco, effectivement, avec ses services qu'il fournissait déjà, et ou Bouygues. Mais avec le numérique, il gagne aussi un accès à d'autres publics et une vision politique, j'allais dire, nouvelle de cela. Mais ça suppose, en contrepartie, une responsabilité, j'allais dire, dans la coordination avec les élus locaux, avec l'ensemble des habitants, etc. Et quelquefois, on sent que ces dossiers-là sont pas forcément, on n'a pas forcément l'arène, j'allais dire, l'endroit pour vraiment discuter de cela. Et on peut craindre, ce qui est le cas, quelquefois, du push technologique massif, c'est vrai.
Moi, j'ai le sentiment, c'est qu'on est en train de mettre en service nos premiers écoquartiers, on va dire, intelligents et pilotés énergétiquement. Vous touchez du doigt quelque chose d'important, c'est que ça va modifier certainement la gouvernance entre le public et le privé. Quand je dis le privé, ce n'est pas les opérateurs, mais c'est les habitants, parce que même dans le logement social, on est une personne privée. Et donc là, il va falloir inventer une nouvelle forme de gouvernance de ces quartiers qu'on n'a probablement pas encore dont d'ailleurs on ne mesure même pas encore les sous-jacents et les demandes.
Emmanuel Paquette, sur ce sujet.
Oui, quand on regarde aujourd'hui la dépense moyenne d'un foyer, par exemple, c'est 1 400 € par an et par foyer pour le chauffage. Mmh. C'est l'une des plus grosses dépenses énergétiques. Arrive ensuite l'électroménager pour l'entretien avec la consommation électrique. C'est ce qui représente à peu près 30% de la facture, 16% l'eau chaude et 3% l'éclairage. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est l'impact des nouvelles technologies, notamment la ville intelligente, sur la facture de tout un chacun et s'il y a un effet effectivement à la baisse du fait qu'on ait une consommation plus intelligente. C'est-à-dire qu'on ne réchauffe pas l'appartement quand on n'est pas présent, on ne laisse pas les lumières allumées effectivement quand on n'est pas là. Plusieurs points comme ça qui permettent d'optimiser, disons, la capacité, la consommation énergétique d'un foyer. Or, il y a une étude d'Alcimed qui vient de paraître récemment qui dit que pour l'instant, derrière le concept de ville intelligente, de foyer intelligent, on ne voit pas encore la réalité des économies ou de gains ou de confort de la part des usagers. Alors je reviens un petit peu sur la question précédente. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour des gens comme IBM, Cisco, Microsoft, Google de rentrer dans les foyers aujourd'hui en essayant de montrer des économies possibles qui en réalité n'existent pas nécessairement, mais en tout cas pour prendre le contrôle des données qui circulent dans les foyers et dans les villes?
Alors, Éric Mazouet, directeur général délégué de Bouygues Immobilier.
Il y a quand même une première réponse. Nous avons notre premier immeuble énergie positive qui est en fonctionnement depuis 3 ans. C'est le siège de Steria. Il consomme 60% de moins d'énergie que ne l'autorise que la réglementation thermique autorise. Donc forcément, ça veut quand même dire que Steria paye 60% de moins d'énergie qu'immeuble en consomme 60%.
Mais du coup, le retour sur investissement, combien de temps il faudra entre l'économie que je fais aujourd'hui et les frais que j'ai engagés pour... Je suppose que Steria loue plus cher qu'un habitat traditionnel.
Alors, Steria loue un petit peu plus cher, mais en fait, il ne loue pas plus cher puisqu'on a déporté une partie des charges, puisqu'il a moins de charges, on en a déporté une légère partie sur le loyer principal. Mais si je regarde d'où vient Steria, vous savez que la moyenne du parc, c'est 475 kWh par mètre carré par an.
Quand oui, il vient d'un immeuble
de 475 kWh par mètre carré par an, quand il vient dans un immeuble de 40 kWh par mètre carré par an, il a facteur 1 pour 10. Donc il y a une réelle économie et cette économie, elle va arriver dans le logement et elle arrivera, alors on l'espère, dans le commerce le jour où les centres commerciaux feront des efforts pour les rendre un peu moins énergivores.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Ce soir, notre débat dans Soft Power est sur la ville intelligente, la Smart City, avec Dominique Boulier, professeur à Sciences Po, Albert Azeraf, qu'on écoutait à l'instant, directeur stratégique de JC Deco, Éric Mazoyer, qu'on écoutait à l'instant, directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Et puis avec nous également ce soir, Vianney Delourme, cofondateur de Enlarge Your Paris. C'est une application, c'est un site,
c'est un mouvement et c'est un collectif pour commencer, c'est-à-dire que nous sommes une dizaine de journalistes. Et développeurs informatiques. Hein. Attention, évidemment, on s'adresse en utilisant le canal du web. Nous vivons tous en banlieue, sauf un d'entre nous. Et ce que nous avons constaté, c'est que la recherche de l'information culturelle dans les différents départements de banlieue, petite et grande couronne, dont nous avions besoin, était extrêmement difficile à trouver. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même...
Comme si tout le monde allait voir ce qui se passait uniquement à Paris.
Ah, c'est la couverture sur Paris, qui est une ville bénie des dieux hein, pour tout ce qui est pratique culturelle et loisirs, mais
fermée
banlieue,
par un périphérique et donc une frontière.
Fermée par un périphérique qui est un mur de Berlin psychologique, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe au-delà...
Vous suivez l'actualité, vous.
N'est-ce pas, 25 ans. Et ce qui se passe au-delà est marqué par les caricatures que l'on a sur la banlieue, soit...
Alors ça veut dire en gros que hors de Paris, on peut tout faire, et pour les Parisiens intramuros, on peut, vous leur dites, aller voir, sortez, manger, bouger en banlieue, il y a plein de choses à faire.
Hors de Paris, on ne peut pas nécessairement tout faire, mais hors de Paris, il y a une multitude d'infrastructures culturelles, il y a une multitude de lieux, il y a une multitude d'acteurs qui sont extraordinaires, qui font des choses près de chez vous. Voilà, quand vous êtes banlieusard, près de chez vous, il y a quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'aller à la capitale pour voir quelque chose d'intelligent ou de stimulant.
C'est la préfiguration d'une sorte de Grand Paris pour vous ?
Mais le Grand Paris, il existe déjà. Nous sommes des grands Parisiens. Déjà, quand nous prenons le métro, la ligne 13, la ligne 5, la ligne 7, nous passons le périphérique sans nous en rendre compte. Paris existe, le Grand Paris existe
et puis
déjà.
Et c'est dézoné le week-end, en plus.
Et c'est dézoné le week-end, les petites et les grandes vacances, ce qui est formidable, ce qui fait que vous pouvez aller jusqu'au bout du territoire du RER. La réalité, c'est que les usages sont déjà là, les envies, etc. Maintenant, on est dans une question, et notre métier, c'est de raconter des histoires de désir, de montrer que c'est formidable, qu'il y a une nouvelle frontière, qu'il y a des terrains à conquérir, qu'il y a des terrains de jeu merveilleux, etc. Sans exagérer, sans non plus tomber dans
le... Au fond, au-delà de Manhattan, il y a Brooklyn. C'est ça que vous voulez nous dire.
Et puis, Central Park du Grand Paris, il existe déjà. Il est à la Courneuve. C'est à 10 minutes, un quart d'heure du périph'.
Ou à Vincennes, ou ailleurs.
Oui, mais la même taille, 400 hectares. Voilà, mm-hmm. Donc on a vraiment... Il y a des choses absolument partout. Donc, nous sommes un groupe d'une dizaine de journalistes. Et depuis un an, nous nous baladons partout, non pas avec des Google Cars, car nous sommes une association et nous sommes bénévoles, mais avec nos passes Navigo.
Enfin, ça coûte rien, Google Maps, hein, mais...
Non, les Google Cars oui. Pour faire des cartes, parce qu'on veut faire notre carte, justement, du Grand Paris idéal, celui, et on y reviendra tout à l'heure, évidemment, mais... Et depuis un an, nous munis de notre passe Navigo, nous allons partout et nous avons rapporté 150 reportages. Nous avons plongé dans la fosse des Chantraines, dans le 92, à 25 mètres de profondeur, nous sommes allés faire de l'agriculture urbaine, nous avons accompagné tout un tas de gens formidables, et nous en avons rapporté des histoires. Et maintenant que nous sommes convaincus, un, que ça intéresse les gens. Deux, qu'il y a une demande par conséquent. Nous avons l'intention de développer un média. Aujourd'hui, nous existons avec un blog, un compte Twitter et un compte Facebook. Et nous avons l'intention de développer un média qui s'appuie sur des services. La base, vous le disiez tout à l'heure, c'est la carte, la géolocalisation. Nous préparons un agenda géolocalisé avec toutes les activités culturelles du Grand Paris. Et quelqu'un a évoqué tout à l'heure la question de l'open source. Évidemment, ce n'est pas nous qui, avec notre pass Navigo, allons frapper à toutes les portes pour remonter l'information. C'est forcément un mouvement collectif qui fera que les informations remonteront. Et par la suite, comme nous pensons que la culture et la mobilité, le loisir et la mobilité vont ensemble, nous sommes en train, grâce à des start-up amis, de créer un système d'information de mobilité durable. Voilà. Donc, pour dire les choses très vite, voilà un peu notre projet. Et voilà.
Anne Chevaux.
Oui, faire un site internet sur le Grand Paris, vous disiez à l'instant, nous sommes tous des grands Parisiens.
Oui.
Est-ce que vous croyez néanmoins qu'il y a un public? Et est-ce que vous croyez néanmoins qu'il y a une identité du Grand Parisien? Il y a un Grand Paris, mais de là à dire qu'il y a une communauté imaginaire, c'est quand même présupposé d'un attendu assez fort, non?
C'est présupposé d'un attendu assez fort, mais nous commençons par nous servir nous-mêmes. Nous nous sentons grands Parisiens. Alors ensuite,
Oui, mais vous êtes 10, enfin...
Nous sommes 10, mais alors je peux vous dire que nous passons notre temps à rencontrer des gens qui sont enthousiastes. Alors, soit les gens dont on raconte l'histoire, soit des gens à qui on raconte notre projet et qui nous disent « vous faites le média dont on a besoin ». Donc, le Grand Paris, vous avez raison, c'est une question d'identité. Pour l'instant, il n'y a pas de tour Eiffel du Grand Paris. Donc, tout ça va mettre du temps. Mais je vous assure que le service qui est de dire aux habitants des différents quartiers, des différentes zones du Grand Paris, qu'il y a près de chez eux quelque chose d'intéressant, et leur dire au quotidien, c'est quelque chose qui va être formidable. On va créer des usages.
Éric Mazoyer de Bouygues.
Oui, tous nos smart cities. Du coup, moi, ça m'intéresse. J'en profite pour faire un peu des affaires avec monsieur.
Ben voilà.
On a une marque qui s'appelle Urbanera qui développe ces smart cities. Et on est en train de créer un portail pour les habitants de ces smart cities.
Vous allez financer votre start-up.
Portail c'est qui est en trois étapes. C'est mon environnement, mon appartement, justement, avec la gestion de l'énergie, tout ce qui se passe autour. C'est mon quartier, ma communauté, c'est-à-dire l'éco-quartier. Puis après, c'est ce qui est très important, et on le sent dans la demande, c'est tout ce qui se passe autour de mon environnement, c'est-à-dire le quartier façon un peu plus large. Du coup, nous, on est intéressés, on s'associe à beaucoup de start-up, et on serait très intéressés que vous veniez nous rejoindre sur nos plateformes de recherche et développement.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors ce qu'on appelle le City Guide, le guide de ville, existe depuis très longtemps sur Internet. Hein, les premiers sont nés en 98. Mmh. Web City était un premier, a ouvert à Lyon, a ouvert plein de filiales dans plein de villes, et a fait faillite. L'autre grand acteur était CityVox.
Ouf.
CityVox, pareil, acteur de proximité, a été revendu 4 fois et vient d'être vendu pour 1 euro symbolique par Orange il y a quelques semaines.
Formidable.
Donc la question, c'est plutôt de dire, est-ce qu'il y a vraiment une attente des gens sur ce type de service? Est-ce qu'on n'est pas déjà passé dans un autre web qui d'ailleurs a tué cette société-là, qui est le web 2.0 de TripAdvisor et d'autres? C'est-à-dire, je sais où je veux aller et je regarde les notations des gens. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut le coup de regarder, d'aller à telle exposition, et à ce moment-là, j'y vais ou je n'y vais pas?
Alors non. Certes, nous ne faisons pas un guide touristique, et puis l'information que nous allons remonter, les événements, les lieux et les personnes dont nous parlons, sont sous le radar. Donc, nous apportons un service ces gens ne sont pas racontés, ces lieux ne sont pas racontés. Donc, vous dire que des foules en délire attendent que nous leur parlions d'une brasserie artisanale à Montreuil ou d'une association qui fait du glanage à Bagnolet ou d'un collectif qui fait de l'art.
Donc, vous faites du journalisme, en fait.
On raconte des histoires.
Alors, oui. Deux applications en complément de ce qu'on dit. D'abord, il y a une application qui marche bien aux États-Unis qui s'appelle Nextdoor, qui vous permet d'aller voir ce qui se passe dans votre maison, en fait, dans votre immeuble et dans le quartier très très proche. C'est une sorte de Facebook, mais réservé à 100 ou 200 mètres autour de chez vous. Et puis il y a OushaID, je citais tout à l'heure, c'est la capacité de créer des cartes hors Google Maps pour son propre quartier et les remplir soi-même. Alors pour terminer cette émission, peut-être une question, et je commence par vous, Dominique Boulier, et ça vous permettra de rentrer dans ce débat par rapport à ce que vous venez d'entendre. Au fond, est-ce que la ville intelligente, elle sera publique ou elle sera privée?
Eh bien, l'exemple qui vient d'être pris est intéressant parce que précisément la vision publique que l'on a, la façon d'une ville qui s'adresse au public, vous voyez, je vais tourner un peu autour du mot, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il y a une façon de gérer l'attention. L'attention des décideurs, mais l'attention aussi, bien entendu, du public, des citoyens, etc. Et c'est une politique que jusqu'ici, les villes faisaient, ils avaient des services de communication, etc., bien entendu. Mais là, ils vont pouvoir s'appuyer, ils pourraient s'appuyer, s'associer avec des fournisseurs d'informations, des gens qui sont concernés et qui pourraient générer une autre politique d'attention. Et à ce moment-là, là, on a finalement ces enjeux de réputation qui ne sont plus seulement des enjeux de marketing, qui sont aussi des enjeux de liens qui se tissent en même temps. Donc il y a une chance peut-être pour faire quelque chose comme ça, pour inventer des solutions de ce type-là.
Albert Acera, vous êtes directeur stratégique de JC2Co, peut-être une réaction sur ce qu'on vient de dire?
Je crois qu'on le disait en introduction, la compétition entre les villes aujourd'hui est très grande dans beaucoup de domaines. Le tourisme, l'économie, elle va être également très porteuse dans l'univers du numérique, dans le fait d'accueillir au plus haut niveau les start-up. Et on sait que Paris est en pointe de ce point de vue. Donc moi, je crois beaucoup que la Smart City va sans doute révéler demain un certain nombre de grandes capitales mondiales qui vont y investir beaucoup. Et de ce point de vue, je pense que JC2Co aura bien sûr et a déjà un rôle important à jouer.
Avec ces abribus intelligents, Albert Acera, vous êtes directeur stratégique de JC2Co. Merci pour votre présence ce soir. Un dernier mot peut-être à vous, Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier.
Alors sur le sujet, deux remarques. La première, c'est sur le Fort d'Issy. On a fabriqué un site collaboratif qui permet donc aux habitants du Fort d'Issy de se mettre en rapport avec les commerçants, la ville et tous les services culturels de la ville. Donc je pense qu'il y a une vraie demande et c'est utilisé. Et la seconde, c'est qu'en termes d'innovation, pour répondre à monsieur, bah oui, c'est ça la vie.
Monsieur Emmanuel Paquette.
Voilà, monsieur Emmanuel Paquette, c'est ça la vie. Le time to market, c'est quelque chose de très compliqué. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché.
Vous pensez à
pour les trois premiers que le prochain, et je l'espère pour monsieur, ça ne marchera pas. C'est ça le poids de la responsabilité de l'innovation.
On se quitte avec The Endless River, un nouvel album signé par les petits jeunes un peu édentés aussi de Pink Floyd. Et oui, Pink Floyd, le nouvel album qui sort demain et en quasi-exclusivité ce soir sur France Culture avec un titre en français dont nous écoutions un extrait à l'instant. Allons-y! On en reste là pour ce soir. Cette émission Soft Power a été préparée par Mathilde Wagman à la régie Pierrick Monsigny. Soft Power, une émission de Frédéric Martel avec Agnès Chevaux ainsi que notre chroniqueur Emmanuel Paquette de L'Express. Réalisée ce soir, cette émission a été réalisée par Perret Legras.